En Luc 24, verset 46, et en Acte 1, verset 8, Jésus envoie ses disciples en mission. Et il leur promet aussi de leur envoyer le Saint-Esprit. Un peu moins de 5 ans plus tard, après cet épisode, les disciples sont toujours à Jérusalem, là où Jésus les a envoyés en premier. Leur ministère vient de commencer, et comme cela leur avait été promis, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est une expérience forte qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Maintenant, ils peuvent même faire des miracles comme Jésus. Il y a quelque temps de cela, Pierre a guéri un boiteux pour la première fois. À cause de cela, il est allé en prison avec Jean, et il a été convoqué par les prêtres le lendemain matin. Mais à cause de l'assurance de son discours, ils l'ont relâché. Le témoignage des disciples a déjà emmené plus de 5000 personnes à la foi. Et la communauté des chrétiens ne cesse de grandir. Malgré la méfiance des autorités juives, le ministère des disciples est plus que fructueux. Et les choses se passent bien. Cependant, ils le savent. Cela ne durera pas. Parce que Jésus leur avait bien annoncé. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, verset 20. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles en acte 5. Nous allons lire les versets 12 à 42 ensemble. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour emmener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison, et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit « Allez au temple, et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage, et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les sentinelles étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer. « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple !» Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit, avec un détachement de gardes, et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort, en le clouant sur le bois. » Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à la droite comme le chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements. avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelque 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour, et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu. Et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Ce n'est pas la première fois, souvenez-vous, que Pierre et Jean sont arrêtés. Sauf que cette fois, ce n'est pas seulement Pierre et Jean qui sont arrêtés, mais ce sont tous les apôtres. Et ce n'est pas seulement devant quelques prêtres, mais c'est devant tout le Sanhédrin. Alors, qui sont ces gens? Il s'agit de tous les chefs de la loi, tous les représentants du peuple d'Israël, réunis à leur grand complet. Et en tout, cela fait exactement 71 personnes. Et généralement, quand le Grand Conseil se réunit, c'est assez mauvais signe. D'ailleurs, souvenez-vous, la dernière fois que le Grand Conseil s'est réuni, c'était pour la condamnation de Jésus. Alors je voudrais attirer votre attention dans ce passage sur un point très précis. Remarquez que nous n'avons à aucun moment, ou presque dans le récit, accès aux sentiments des apôtres. Nous ne savons pas s'ils avaient peur, s'ils étaient angoissés, s'ils étaient confiants, nous savons juste qu'ils ont obéi et qu'ils étaient joyeux. Cela est quand même très étonnant. Au verset 19, les apôtres sont enfermés en prison, dans des conditions certainement peu convenables. Et ils étaient en attente d'un jugement qui devait être très sévère, ils risquaient la mort. Il y avait quand même de quoi avoir une grosse boule au ventre et être très angoissés. Surtout quand on sait ce qui est arrivé à Jésus dans la même situation. Alors, la question qu'on peut se poser en lisant ce passage, c'est les disciples avaient-ils peur? Est-ce qu'ils ont prié dans leur cellule? Est-ce qu'ils se sont soutenus les uns les autres? Est-ce qu'ils se sont rassurés? Et puis quand l'ange est venu les délivrer, est-ce qu'ils ont été soulagés? Quand même, Dieu a envoyé un ange pour les sortir de prison, pour les délivrer de la mort, ce n'est pas rien. Mais non, on ne sait rien. On ne sait pas s'ils ont été heureux, on ne sait pas s'ils ont été euphoriques. Et puis, quand les anges leur ont dit de retourner au temple pour continuer d'enseigner alors que c'est là qu'ils avaient été arrêtés, n'ont-ils pas ressenti de l'appréhension, de la peur? N'ont-ils pas contesté? Ou alors ont-ils été courageux, confiants? Nous ne le savons pas. Et au verset 26, encore pire je trouve, ils se font arrêter de nouveau. Et ils ont l'air de suivre ceux qui les arrêtent complètement passivement. Ils ne font rien, ils ne contestent pas, ils ne disent rien. Enfin, en tout cas, le texte ne nous le dit pas. Les disciples apparaissent vraiment dans un rôle très passif. Alors, contrairement aux apôtres, nous avons aussi le portrait du grand prêtre et de son entourage. Et là, c'est complètement l'opposé. Nous avons accès à tous les sentiments de ces personnages. Nous savons exactement ce qu'il se passe dans leur tête. Nous savons qu'ils étaient jaloux, que c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté les apôtres, mais nous savons aussi qu'ils étaient perplexes, nous savons qu'ils avaient peur, qu'ils avaient la sensation d'être accusés au verset 28, qu'ils ont été exaspérés et remplis de colère au verset 33. Il y a un véritable contraste avec la description que l'on nous fait des apôtres. Pourquoi est-ce que nous avons accès à tous leurs sentiments à eux et pourquoi est-ce que nous ne savons rien des apôtres ? Alors, ensuite, nous arrivons au moment où les apôtres entrent enfin en action. Ils sont là, devant 71 personnes, tous spécialistes de la loi, des gens qui sont très très respectés parmi le peuple juif. Pour vous donner un peu une image, c'est un peu comme le pape pour les catholiques, c'est pareil, c'est une très grande instance, c'est des gens qui sont très respectés. Et là, les apôtres prennent la parole. Ils se mettent quand même grandement en danger. Ils mettent en lumière la culpabilité des chefs de la loi en insistant sur la mort du Christ et en les accusant directement de l'avoir mis à mort. Alors, ils utilisent le terme « sur le bois ». Cette expression est aussi utilisée dans le Deutéronome. Et elle est utilisée pour parler des personnes qui ont été condamnées, et c'est être condamné sur la croix, sur le bois, c'est la pire des condamnations. Cela veut dire qu'on a été maudit par Dieu. Cela représente la malédiction de Dieu. Et en fait, les apôtres sont là en train de dire au chef de la loi, « Regardez, cet homme-là que vous avez cloué sur le bois, celui-là même que vous vouliez maudire, Dieu l'a glorifié et l'a ressuscité des morts. » C'est quand même très fort. Et l'auteur a bien choisi ses mots. Et puis, ce beau discours est suivi d'une magnifique confession de foi. Jésus est le Sauveur, il fait grâce et il pardonne. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les apôtres viennent de livrer sur un plateau d'argent tous les motifs suffisants pour être condamnés à mort par les Juifs. Parce que oui, leurs paroles auraient pu être considérées comme blasphématoires. Encore une fois, nous ne savons pas s'ils ont eu peur, nous ne savons pas s'ils ont appréhendé, s'ils ont été angoissés. Dans cette situation très délicate dans laquelle se sont mis les apôtres, un personnage nommé Gamaliel va leur apporter la solution et va les sortir de cette situation délicate. On peut voir dans l'intervention de Gamaliel l'intervention de Dieu. Dieu qui prend soin de ses serviteurs, qui les guide et qui, par cet homme, par ses paroles remplies de sagesse, va les délivrer de la mort. Alors, Gamaliel était l'un des plus célèbres rabbins de l'époque. Il était membre du Grand Conseil et il avait beaucoup de disciples, notamment le futur apôtre Paul. Forcément, tout le monde l'écoutait attentivement. Bien sûr, quand il a dit toutes ces paroles, il ne s'est jamais imaginé que ce mouvement pouvait venir de Dieu. Il pensait plutôt qu'il venait des hommes et qu'il allait disparaître de lui-même. Il évitait surtout au Grand Conseil de se mettre dans des problèmes, parce que s'ils avaient condamné les apôtres à mort, ils se seraient certainement retrouvés avec le peuple à dos, parce que les apôtres avaient une grande estime. Enfin, les apôtres étaient très estimés par le peuple. Et puis, enfin, nous arrivons au verset 41. En 30 versets, un seul adjectif est utilisé pour nous dévoiler ce que vivent les apôtres. Un seul. Et cet adjectif, c'est joyeux. Les apôtres sont joyeux. Alors, ils viennent quand même de se faire battre. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est une flagellation qui était particulièrement sanglante. C'était la pire sanction que le Grand Conseil pouvait infliger. 40 coups de fouet et beaucoup de gens sont morts à la suite de cette flagellation. Donc les apôtres sont vraiment passés à côté de la mort et ils ont dû énormément souffrir. Pourtant, ils sont joyeux. Et malgré cela, ils continuent de prêcher la bonne nouvelle. Ils continuent de proclamer que le Christ est leur sauveur. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si on me menaçait de me condamner à mort si je n'arrêtais pas de parler du Christ, je serais quand même tentée de me taire. Je pense que seule la puissance de Dieu peut leur donner un tel courage. C'est impossible autrement. Alors, c'est la première fois que les apôtres sont persécutés, qu'ils sont humiliés et qu'ils sont battus presque à mort pour la gloire de Dieu. Et en fait, ils sont joyeux, notamment parce que c'est l'accomplissement de Matthieu 5,11 et de ce que Jésus leur avait annoncé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Alors voilà, dans ce passage, nous avons un adjectif, un seul, mais qui est choisi à la perfection pour nous décrire ce que vivent les disciples et qui couronne un peu l'image que nous nous faisons de ces apôtres tout au long du récit. Alors maintenant, j'aimerais qu'ensemble, nous fassions un peu le portrait de tous ces personnages. D'abord, le grand conseil et son entourage, le Sanhédrin. Alors, il me semble que ce qui ressort du texte est quand même assez simple. Ces personnages nous apparaissent vulnérables, craintifs et remplis de colère. Nous percevons des chefs de la loi qui sont dépassés par les événements, soucieux de perdre leur autorité vis-à-vis du peuple, apeurés de la sortie miraculeuse des apôtres de prison. Il y a un vrai contraste entre les apôtres persécutés qui sont dans la joie et le Sanhédrin persécuteur qui a peur. C'est quand même pas très logique tout ça. Et puis, comble de l'ironie, la perplexité et la prudence des chefs de la loi est mise en opposition avec l'assurance des apôtres, et cela inverse complètement le cours du procès. Ceux qui étaient censés accuser, ceux qui étaient censés persécuter, sont en fait ceux qui se considèrent comme accusés. Le grand prêtre se considère comme accusé par Pierre, et c'est Pierre qui invite le grand conseil à recevoir la grâce du changement et du salut. Les grands chefs de la loi semblent complètement écrasés par la puissance de Dieu qui est infiniment plus grande que la leur et qui se manifeste au travers des disciples. Alors maintenant, les apôtres. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai fini de lire ce texte, je me dis « waouh ». Ils sont obéissants, ils sont courageux, ils sont joyeux. C'est quand même dingue. Je suis juste admirative de voir que face à une telle souffrance, des personnes soient capables de réagir ainsi. Pourtant, cette situation est tout sauf joyeuse. Quand on réfléchit 5 minutes, elle parle quand même de persécution. Et la persécution, ça évoque plutôt la violence, la peur, l'angoisse et la mort. Mais l'auteur ne parle pas vraiment de cette souffrance dans le texte. Et n'était-ce pas quelque part un peu son but ? Je pense qu'en choisissant de ne pas nous révéler les sentiments des apôtres, en se contentant de nous décrire l'action d'un point de vue extérieur, l'auteur braque les projecteurs non sur la souffrance des apôtres, mais sur leur courage. Et bien plus encore. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une certaine passivité des disciples dans le texte. Cette impression que nous avons qu'ils subissent complètement la situation. Je pense qu'en fait, l'auteur, de la même façon, a fait exprès de mettre les apôtres dans ce rôle de passivité. Et de cette façon, il révèle complètement l'action de la main de Dieu. C'est Dieu qui dirige toute la situation, ce ne sont pas les apôtres. Alors oui, le récit ne le dit pas, mais il y avait bel et bien de la souffrance. Une souffrance insupportable qui aurait pu coûter la vie aux apôtres. Il y avait certainement du sang, il y avait certainement des cris, de la peur, une angoisse profonde de la mort. Et puis peut-être que les apôtres ont eu peur de ne pas réussir à remplir leur mission, Ils ont peut-être peur de se dégonfler et de ne pas tenir le coup face à tout cela. Les apôtres sont des humains comme nous. Et ils ressentent des sentiments, les mêmes sentiments que nous. Mais la bravoure de leur courage et l'inspiration de leurs paroles, l'obéissance et la joie, toutes ces choses qui nous sont montrées dans ce texte, toutes ces qualités leur viennent de Dieu. Et par ce simple procédé littéraire de mettre les disciples en arrière-plan, de les mettre dans ce rôle passif, l'auteur nous révèle la gloire éclatante de Dieu dans ce texte. Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous ne savons pas quelles persécutions nous attendent. Nous ne savons pas ce que nous allons devoir endurer pour notre foi. Nous vivons aujourd'hui dans un pays paisible, mais qui nous dit que cela va durer ? Face à cet avenir incertain, une chose est sûre. Dieu sera notre courage. Il sera notre force. Il sera notre persévérance et notre joie. C'est lui qui l'a promis. Comme pour les apôtres, il ne nous abandonnera pas dans la mission qu'il nous confie. Comme nous voyons du courage des apôtres émaner la gloire de Dieu, de la même façon, au travers de nous, c'est la gloire de Dieu qui brillera sur les gens. Et les gens verront cette gloire. Et ce ne sera pas, cette gloire ne viendra pas de nous, mais elle viendra de Dieu seulement, car nous sommes des hommes. Nous allons douter, nous allons avoir peur, nous allons être angoissés. Mais c'est Dieu, et Dieu seul, qui va nous donner courage et force. Oui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. N'oublions pas de toujours laisser sur le devant de la scène ce Dieu qui est notre Père. C'est lui qui est l'acteur principal de nos vies. Les apôtres au fond de leurs cellules, devant le Sanhédrin ou sous les coups de fouet, ont certainement beaucoup souffert. Mais cette souffrance n'était rien à côté de leur espoir, de l'espoir qu'ils avaient en ce Dieu qui viendrait les délivrer. Leur force, leur courage et leur secours étaient bien en lui seuls.